Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdi Wa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monique Sirène. Bonjour.
Bonjour.
Monique Sirène, nous nous retrouvons de nouveau autour de l'orgue, mais aussi des organisations de concerts qui vont avoir lieu prochainement, à commencer par le 28 novembre, avec un récital soprano et clavecin, et en compagnie de Catherine Bernardini et vous-même. Et vous interpréterez des chants d'amour de Vivaldi, Handel, Gluck et Mozart. On pourra peut-être s'arrêter un peu sur Gluck. Auteur, compositeur, du moins un peu moins connu.
Oui, ça c'est vrai. Et ce sont des chants d'amour en général. Et il y a du drame, il y a de la joie, c'est très varié. Et Catherine exprime très très bien les sentiments, puisqu'elle fait partie d'opéras à Saint-Étienne, à Lyon, à Genève. Et maintenant, elle est vraiment dans le théâtre, elle exprime sa voix très bien à l'opéra.
Nous aborderons aussi le concert du 19 décembre qui aura lieu au Temple de Die. Ça sera avec le partenariat de Die Cantate.
Exactement, le chœur Die Cantate qui va chanter des chants de Noël, de Bach, de Buxtehude, Handel aussi et Poulenc. Et il va inviter Zoé Galmiche à exprimer des airs extraits de l'oratorio de Noël de Bach et puis des airs extraits du Messie de Handel. Il y aura un organiste qui viendra de Paris et je sortirai mon clavecin. On fera aussi des duos, des musettes de Noël entre deux comme intermède. Et donc, ça sera très joyeux.
Et puis, la saison à venir, 2022, où vous préciserez d'autres dates à venir. Et on abordera aussi l'orgue de Die, hein, et, qui, ça y est, va pouvoir partir prochainement en restauration, et grâce à des subventions qui sont arrivées, finalement. On peut commencer par aussi vous-même, Monique Sirène. On peut rappeler qui vous êtes. Vous êtes avant tout musicienne.
Oui, bien sûr. Je suis venue donc il y a 16 ans dans le Diwa pour la retraite. Et j'étais donc professeure de clavecin et de technique vocale au conservatoire dans la région parisienne, de Carrières-sur-Seine. Et donc pour ma retraite, je suis venue. Et donc Die m'a intéressée comme région, très jolie. Et je me suis intéressée à l'orgue de la cathédrale. J'ai monté une chorale, Die Cantate. Et je sors mon clavecin de temps en temps. Qui a une grande valeur, ce clavecin, c'est une copie d'ancien. Et peut-être on pourra en dire un mot, mais je peux dire une copie d'ancien français du 18e siècle qui a beaucoup de valeur, d'un Blanchet, s'appelle, d'un facteur français.
Vous avez la responsabilité également de l'orgue de Die.
Mais oui, je suis devenue titulaire parce que cet orgue était un peu abandonné. Je l'ai vraiment senti vraiment... musicalement très intéressant et donc j'ai joué beaucoup dessus et puis je suis devenue donc l'organiste titulaire de la cathédrale pour la liturgie et aussi j'invite beaucoup d'autres organistes parisiens, d'Orléans, de partout, de Luxembourg, de Suisse. Et belges aussi. Beaucoup d'organistes aiment beaucoup, et surtout de Paris avec Philippe Lefebvre, qui est l'organiste titulaire de Notre-Dame de Paris, qui nous a dit « Et cet orgue vaut le coup d'être restauré, parce qu'il a des tuyaux qui sont donc marqués. » C'est d'un très grand facteur, Merklin, Joseph Merklin.
Ah, voilà.
Alors, cet orgue était... fabriqué par Joseph Merklin, qui est un très grand facteur d'orgue du 19e siècle. Cet orgue a été construit en 1845. Donc, il est venu de Marseille. Il était acheté par la cathédrale. Enfin, il est quand même donc acheté par la mairie de Die. La mairie de Die est propriétaire de cet orgue. Il est arrivé en 1888 et donc Merklin l'a harmonisé, l'a arrangé pour qu'il soit dans la cathédrale vraiment au maximum de ses possibilités. Il a 10 jeux, c'est-à-dire 10 registres, 10 possibilités différentes de sons. Les sons de trompette, de flûte, de hautbois, les jeux de gambe, les jeux de bourdon, il y en a 2, des voix célestes. Et on peut accoupler tous ces jeux ensemble. Il y a un jeu de pédale, il y a 2 claviers. Et c'est assez fabuleux. On peut jouer beaucoup de musique de toutes sortes. Musique ancienne, musique de Bach, musique Mozart, même musique romantique et contemporaine. Mais il a besoin d'être restauré parce qu'il est très empoussiéré. Et même si la mécanique est parfaite, il y a des bras articulés qui vont des jeux de registres jusqu'aux soupapes des tuyaux, de chaque tuyau. Et cette soupape se soulève pour laisser passer l'air qui arrive depuis le moteur électrique et la pompe qui envoie l'air dans les tuyaux. Et c'est assez fabuleux à voir. On a fait beaucoup d'animations pour montrer cette fameuse fabrication artisanale de cet orgue. Ça n'est pas un orgue électronique, c'est un orgue artisanal à tuyaux et qui est très intéressant pour le patrimoine de Die.
Vous connaissez cet orgue. Et qu'est-ce qui amène un son, par exemple celui du bourdon et celui, par exemple, des voix célestes? Qu'est-ce qui agit au sein du mécanisme pour justement transformer ces sons à partir du clavier?
Ah, c'est une question très intéressante parce que les tuyaux sont de différentes sortes. Il y a des tuyaux en bois carrés qui sont les jeux de bourdon. Et donc, chaque tuyau a une dimension spéciale. Les plus grands sont des plus graves. Les plus petits, les plus courts donnent des sons aigus. Et par exemple, d'autres jeux sont en étain. Et ils ont peut-être quelquefois une embouchure évasée. Et quelquefois, ils sont tout droits. Ils ont des formes différentes. C'est ça qui différencie les différents jeux. Et quelques-uns ont des hanches. Des hanches. Les jeux de hautbois et de trompette ont des hanches. C'est une fine lamelle près de l'embouchure, enfin de l'endroit où arrive la soupape et arrive l'air.
Et pareil, les hanches, elles peuvent être de bois ou de métal peut-être ?
Surtout de bois. Parfois, il y a des tuyaux qui se cassent. C'est assez fragile. Si un tuyau tombe, il cabosse les autres jeux, et c'est ce qui est arrivé récemment. C'est très fragile quand même. Ils sont posés sur un sommier tout droit, et en dessous du sommier, il y a la soupape avec un ressort, et qui s'ouvre ou qui se ferme, suivant avec les bras articulés, suivant la touche qu'on joue et le registre qu'on tire.
Cet orgue est donc sur le départ d'une restauration. Il partira en quelle période à peu près? Et puis combien de temps s'effectuera cette restauration?
Ce sont des bonnes questions auxquelles, hélas, je ne peux pas répondre précisément. On attend que le dossier soit complet avec les appels d'offres à la mairie. Donc je suis en rapport avec Sylvie Girard. Et aussitôt que l'appel d'offres sera lancé pour tous les facteurs, en particulier Michel Jurine est un facteur qui a fait ses 3 thèses sur Joseph Merklin, le facteur d'orgue de notre orgue. Donc il est tout à fait habilité à restaurer notre orgue et je le souhaite vivement. Il habite Lyon, mais il est en Corée en ce moment parce qu'il a emmené 4 orgues qu'il a construits lui-même dans la même facture française de Joseph Merklin. Ils sont partis en bateau par container. Ils sont arrivés en Corée du Sud et ils vont dans le conservatoire de Séoul où il y a une nouvelle classe d'orgues et dans différentes églises. Il va revenir, il m'a téléphoné, il va revenir le 15 décembre. Et il espère bien que les appels d'offres seront lancés à ce moment-là. Après ce moment-là, il y aura 3 mois d'attente, de réponse des facteurs d'orgue. Et ensuite, une délibération de la mairie. Et après délibération, ils vont donc nommer un facteur qui sera vraiment nommé pour faire cette restauration. Et l'orgue partira pour 6 mois, 1 an, on ne sait pas trop.
Monique Sirène, vous êtes également à l'origine de l'association Musique et Chants d'été.
Oui, je suis en partenariat, nous sommes en partenariat avec... en tant que dicantate avec cette association, bien sûr. Cette association vient de mon travail dans la région parisienne, bien sûr, et toutes les chorales que j'avais formées avant de venir en retraite il y a 16 ans. Et toute une troupe de logistique de Paris organise ces stages d'été en août. Ce qui nous a permis d'avoir beaucoup, beaucoup de choristes, jusqu'à 200 choristes, qui sont venus de toute la France, de Belgique, de Suisse, pour faire ce fameux dernier concert de la création de Haydn, et avec un orchestre assez conséquent aussi, dont mon frère est le premier violon soliste, et puis la grande Catherine Bernardini, Patrick Garrett, Raphaël, qui était venu pour, comme soliste, chanteur.
Vous avez dirigé des chœurs, chef de chœur, on peut dire. Comment se vit justement cette pratique de chef de chœur? Comment est perçu chaque chanteur? Est-ce que c'est, comment dire, comme un orchestre, chacun intervient dans un temps donné?
Alors, dans une chorale, vous parlez de la chorale di cantate peut-être.
Mais là, je vois par exemple, vous avez dirigé le chœur de Sergi Boucledoise,
oui.
entre autres. Hein,
ce chœur avait 60 chanteurs, 60 choristes qui répétaient lundi soir à Sergi. C'est un grand souvenir pour moi. Nous avons monté du Mozart, du Handel, avec d'autres chorales d'ailleurs. On était 200 avec la chorale de Poissy que j'avais montée également et la chorale de Carrière. Et à la fin de ma mission donc, en région parisienne, nous avions monté le Requiem de Forêt avec les 3 chorales. C'était assez formidable.
Et alors, cet instant de diriger un chœur, comment ça se produit? Il y a un langage de signes aussi pour diriger. Est-ce que c'est similaire à un chef d'orchestre?
Bien sûr. J'ai appris donc la direction pendant 2 ans avec une bourse avec Pierre Cao, qui était un chef d'orchestre et de chœur surtout. Il a dirigé le chœur du Luxembourg. Et... donc Pierre Cao, un professeur très exigeant et qui m'a montré la direction, la main droite, la main gauche, indépendante, une battue de mesure très précise, mais aussi avec la main gauche très expressive pour les nuances, pour aussi montrer l'affect qu'on peut tirer d'une chorale et montrer ce qu'on veut avoir comme son aussi. Mais évidemment... tout en avant, il y a en amont, il y a un gros travail, évidemment, avec les choristes.
Le langage ou le signe du chef d'orchestre ou d'un chef de chœur, il y a un vocabulaire dans ces signes. Est-ce qu'il est inhérent à tous ou alors chacun a sa touche?
Ben, le vocabulaire, le plus possible de la partition qu'on étudie, là, pour le chœur di cantate, on a des partitions... assez exigeante, et le chœur doit travailler, enfin, chaque choriste responsable de sa partition, et donc on travaille d'après la partition, donc au temps de mesure, tel système, reprenons à tel endroit, et voilà, après il faut déchiffrer, ça demande un peu de solfège, mais aussi de la mémorisation, beaucoup de mémorisation, et on a des systèmes d'enregistrement qui sont intéressants maintenant, et chaque choriste de di cantate, par exemple, travaille énormément pour réaliser Bach, Mozart, Buxtehude et Vivaldi bientôt.
Nous revenons donc à cette succession de concerts, à commencer par celui du dimanche 28 novembre, qui se jouera donc au Temple de Die, c'est ça ?
Voilà, exactement.
À 17h.
Oui.
Et donc avec Catherine Bernardini, une grande dame pour vous,
oui.
qui est soprano, c'est ça ?
Oui, exactement. Et depuis 16 ans que je suis ici, je l'ai connue tout de suite. Sa voix a évolué d'une façon fantastique. Elle était bien sûr depuis l'enfance à la maîtrise de Radio France et donc elle a eu des médailles d'or au Conservatoire de Lyon, ensuite soprane lyrique, elle a été beaucoup d'expérience scénique. Elle est récemment, j'ai été l'entendre à l'Opéra de Saint-Étienne où elle avait un rôle au cours de l'opéra Madame Butterfly. Et donc elle fait aussi partie de l'Opéra de Lyon et de Genève. Et elle fait beaucoup, se produit aussi beaucoup en oratorio, les Vêpres solennelles, le Requiem de Mozart. Elle a fait beaucoup de. Elle a une expérience formidable. Et surtout, elle exprime beaucoup de sentiments. Et moi, j'adore l'accompagner. C'est quelque chose, c'est une expérience extraordinaire. Avec le clavecin, elle aime bien le clavecin, qui étouffe moins que le piano peut-être.
Oui. Pardon. Justement, le clavecin, vous oui. aviez le désir d'en parler, de le présenter.
Oui.
C'est une copie, vous disiez.
Oui, une copie d'ancien français, un facteur français du XVIIIe siècle, il s'appelle Blanchet. C'était toute une famille Blanchet qui ont construit des clavecins. Et ce clavecin, il y avait le plan à Bruges, et mon facteur de clavecin qui l'a composé, là, il est décédé maintenant, mais il faisait partie de la. Grand atelier de la grande maison. Atelier de la grande maison. Il y a une succursale à Fort-Calquier qui s'appelle Monsieur Jean Bascou et qui m'aide à entretenir ce clavecin. Mais je peux l'accorder moi-même, rectifier des becs. Je suis vraiment aux alentours de ce clavecin minutieux qui est tout en bois. Les cordes, bien sûr, en métal, en laiton et en cuivre. Mais je le bichonne beaucoup. La température, je fais attention. Et tout va bien pour ce clavecin magique que Catherine aime beaucoup. Et nous avons beaucoup travaillé pendant le confinement. Et nous avons monté ce répertoire, Chant d'amour, qui correspond bien à l'époque du clavecin aussi, 18e, 17e, 18e, pour la musique italienne surtout.
Le clavecin, c'est un instrument qui se fabrique encore ou alors depuis quand il ne se fabrique plus ?
Si, si, il se fabrique toujours. Il y a des ateliers sur Paris. Donc, le mien date de 1979. Et donc, il est tout en bois. C'est un matériel artisanal fantastique. Et on joue surtout, bien sûr, de la musique baroque dessus, parce que ça sonne magnifiquement bien, surtout ce facteur qu'il a... construit avec des basses magnifiques, des sons graves très beaux qui résonnent bien. Et c'est du bois, uniquement du bois qui résonne. Donc c'est un peu fragile, mais ça bouge un peu avec la chaleur. Mais on arrive quand même, il est assez costaud pour bien supporter les intempéries quand même.
Tout comme les pianos, avec un cadre en bois pour les cordes, il y a une fragilité vis-à-vis d'un cadre plutôt métallique qui est beaucoup plus résistant aux perturbations de chaleur.
Oui, oui.
Et est-ce que le clavecin, c'est uniquement un cadre en bois ou alors aussi pour en trouver
des
modèles ?
Il n'y a pas de métal à part les cordes, c'est uniquement du bois. Et un jour, il a eu trop de différence. Je l'ai emmené à Vézelay. Dans la voiture, il était très chaud avec le soleil. Il est arrivé dans l'église de Vézelay et la table a ondulé. Et là, j'ai dû le faire revoir par le facteur. La table avait changé, avait ondulé. Et du coup, il a dû, je crois, changer la table d'ailleurs. Et donc, la couleur aussi est magnifique. Je revenais d'Iran à l'époque et il y a un tapis d'Iran dans mon clavecin. Et en Iran, ils étaient en rapport à l'époque avec Shah Abbas, le roi d'Iran. Et donc, il y a un tapis d'Iran dans ce clavecin parce que les lettres de Montesquieu, les lettres persanes, il y avait des correspondances entre la France et l'Iran. Vous voyez, c'est très recherché.
Alors, ce concert du 28 novembre sera aussi le moment pour écouter des chants d'amour issus de Vivaldi, Handel, Mozart et Gluck, donc un autre compositeur quasi inconnu. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Gluck est un Autrichien compositeur du XVIIIe siècle. Il a écrit beaucoup de mélodies et surtout des airs d'opéra qui sont extrêmement expressifs. Et c'est pourquoi Catherine a choisi « O del mio dolce ardor » qui est très très beau.
Les chants d'amour écrits par ces compositeurs, donc avec des paroles, quels sont les thèmes qui sont abordés dans ces chants d'amour ?
Mais c'est très varié. Ça va de la joie à trouver un amour, la joie d'être amoureux, ou alors, cara sposa, chère épouse, quelque chose de plus intérieur avec Handel, qui est un peu italien dans cet air. Dans Vivaldi, donc, per comune bidiletto, c'est quelque chose de très, très intérieur aussi.
À la suite, il y a ce concert du 19 décembre aussi à venir. Et ça, ça sera à quel moment et à quel endroit plutôt, je veux dire ?
Oui, c'est toujours au temple à 17h. On a trouvé que cette heure était bien pour tout le monde, le public. Et donc le chœur Die Kantate travaille beaucoup, beaucoup pour ce concert, qui va être un concert très varié autour de Noël, bien sûr. Et donc le chœur sera accompagné avec un organiste, l'orgue du temple, sur l'orgue du temple. J'apporterai moi-même mon clavecin et j'accompagnerai aussi Zoé Galmiche, qui vous donnera des intermèdes, extraits de Oratorio de Noël de Bach. Et puis il y aura aussi des extraits du Messie de Handel. Et le chœur chantera une œuvre de Buxtehude qui n'est pas très connue, qui est très dansante en fait. Et ça va être un concert très joyeux de Noël. Et il y aura des intermèdes instrumentaux qui n'est pas courant, entre orgue et clavecin, des musettes, de chorettes, et puis des airs d'Andrieux, d'Aquin aussi.
Et puis, en année 2022, il est prévu des nouvelles dates aussi.
On a donc un très grand projet avec le Gloria de Vivaldi, où il y a les trompettes. Ça, c'est une œuvre très connue, mais on n'a jamais fait. Et vraiment, avec le chœur des choristes de Die Kantate, qui comporte 20 choristes qui sont très équilibrés entre soprano, alto, ténor et basse. Et parfois, on a recours à des choristes de Lyon ou de Grenoble qui volontiers viennent. Aussi du chœur de Vienne, des amis qui viennent souvent en été, mais qui viennent aussi dans l'année soutenir Die Kantate. Et on est très heureux de les accueillir. Ça fait une trentaine de choristes en tout. Et donc, ce Gloria de Vivaldi sera accompagné par un quatuor à cordes et deux trompettes. Le quatuor à cordes qui nous accompagne en général pour l'été, mais vient aussi dans l'année. C'est grâce à mon frère Jean-Michel Denis, premier violon de l'orchestre de Dax et de Bayonne. Et donc, il vient avec son épouse violoncelliste et puis une altiste de Aix-en-Provence et un second violon qui vient également du sud-ouest. Donc ils viennent le 28, le 27, 26, 27, 28, et le concert aurait lieu dans la cathédrale le samedi 28, en soirée, je pense.
De quel mois ?
Au mois de mai, au mois de mai. Mois de mai, c'est le week-end de l'Ascension. On est très contents de ce projet, les choristes se réjouissent, parce que Vivaldi, c'est très gai.
Comment se prépare justement ce concert en amont ? Vous vous retrouvez régulièrement ou chacun travaille un peu dans son coin, la partition dont il a la charge ?
Ben, il y a les deux. On commence un répertoire, on n'a pas encore commencé Vivaldi bien sûr, mais là on est au milieu du travail de Noël qui comporte au moins 10 pièces vraiment très diverses de pièces de Noël, de Bach, de Buxtehude, de Handel, etc. Il faut une mise en route de la part du chef de chœur, une mise en route, on explique comment ça fonctionne, d'après la partition, ce qu'on voudrait que ça marche. Ensuite, il y a des chefs de pupitre qui font répéter par pupitre à d'autres jours, car nous nous rassemblons le vendredi essentiellement à l'école de musique de Die à 17h. Et donc... Le jeudi, par exemple, les altis peuvent se rassembler, ou un autre jour, les ténors peuvent se rassembler, les basses, les sopranes aussi. Et puis on se retrouve après un travail aussi très personnel de chacun qui a trouvé des enregistrements, soit sur Coralia, soit avoir enregistré dans la séance de chant qu'on a fait. Et avant la séance de chant, nous avons toujours une technique vocale très poussée. Car en fait, l'apanage de 10 cantates, je le dis bien fort, c'est l'entourage, l'accompagnement professionnel du chœur. C'est-à-dire, on leur donne une technique vocale quasi professionnelle, c'est-à-dire la formation des voyelles, la formation des consonnes, la technique du souffle, la position, la posture, tout ça, on le travaille énormément. On a d'ailleurs un atelier à Montmort le mardi, en été, et on travaille en plein air pour trouver la bonne position. Le chant, c'est très physique, en fait. Et là, ils apprennent beaucoup. Ensuite, quand on a trouvé sa voix, et après le confinement, c'était dur de retrouver la voix. Donc, après avoir retrouvé la voix, il faut trouver la bonne tessiture dans laquelle on est à l'aise, soit alto pour les voix graves de femmes, ou soprane pour les voix aiguës. Et pareil pour les messieurs, les basses, et pour les ténors, donc les voix aiguës d'hommes. Alors l'apanage de 10 cantates, on demande un gros travail à la maison, un gros travail par pupitre, et après un travail de mise en place comme un puzzle qu'on rassemble, et après un travail de pouvoir exécuter l'œuvre avec des musiciens professionnels, toujours professionnels, que ce soit des chanteurs ou les musiciens, les instruments à cordes, ou les trompettes, ou bien un orgue, ou bien le clavecin qui sera aussi à Noël. Donc là, c'est du travail très sérieux et de musique classique essentiellement.
Sur quelle note se base justement l'accord pour le chœur? C'est le la?
Oh ben oui, on prend un la.
Et ce la, il est 440. Immuable à travers toutes les personnes, même si elles sont éloignées les unes des autres. Vous avez un la précis
Oui, ben, le la est la hauteur 440 Hertz. Donc 440, c'est le diapason actuel pour les musiciens. Donc on prend ce diapason-là. Bien que parfois, à l'orgue du temple, il faudra baisser un peu parce qu'il est un petit peu plus bas. Mon clavecin devra s'accorder sur l'orgue et les chanteurs devront aussi s'accorder sur les instruments.
Voilà, parce qu'il y a différentes hauteurs de là.
Oui. Hein,
il y en avait un qui était à 432 avant la Deuxième Guerre mondiale.
Ah oui, oui, oui. Et en musique baroque,
et justement, les instruments sont accordés en fonction de certains là. Donc les anciens instruments, il faut qu'ils soient en accord avec le chœur.
Alors, par exemple, on a fait du Rameau avec Zoé Galmiche et j'avais descendu mon clavecin à 415, donc un demi-ton en dessous pour faire la musique de Rameau. Et d'ailleurs, nous aurons sûrement un grand, grand projet pour 2023, un opéra de Rameau avec Zoé Galmiche et son mari Florent Chapelle. Pour cette année-là, je dévoile peut-être des choses, mais c'est en projet et c'est très enthousiasmant pour tous les choristes de 10 cantates.
Eh bien, on a fait un bon tour. Il y aura sûrement d'autres informations. On peut être informé où exactement pour vos prestations.
Ben, on essaie de faire une publicité dans la ville par des affiches, des flyers dans tous les magasins. Ensuite, on fait une publicité à l'office du tourisme, au musée, à la mairie. Et notre site internet est en révision. Donc là, c'est plus difficile. Mais moi, je peux donner un numéro personnel auquel on peut, auquel on peut me joindre. 06 75 61 25 01. Et je répondrai toujours, que ce soit pour le chœur dit cantate ou pour les amis de l'orgue, Adi.
Une dernière question. Les bénévoles, ça se trouve facilement? Vous êtes en recherche de chanteurs ou de choristes plutôt?
Bien sûr. Et récemment, nous avons trouvé quelques habitants qui viennent d'arriver, qui étaient en recherche de chants.
Vous serez présente à cette journée samedi 20 novembre à la mairie de Die, entre
Je vais expliquer
14h.
Tout ce qu'on fait à Die Cantate pour que les nouveaux habitants viennent sans problème, et on les aide à être à l'aise. Il y a une très bonne ambiance amicale, on se retrouve souvent. Et tout va bien, on rigole aussi, parce que le chant, ça doit être détendu, sans stress, sans... Voilà, pour que les cordes vocales fonctionnent bien, il faut que le corps soit bien détendu, et voilà.
Monique Sirène, je vous remercie en tout cas de nous avoir donné un peu de votre temps pour cette succession de concerts à venir, et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup à vous. Pour cet entretien.
Au revoir.
Au revoir.